votre grand journal de soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Avec les grandes voix qui sont autour de la table, bonsoir Catherine Ney.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Charles Villeneuve.
Bonsoir.
Bonsoir Gérard Carrérou.
Bonsoir Mathieu.
Et Julien Pierce dans le siège de Benjamin Muller pour la dernière fois cette semaine.
Enfin.
Et qui, comme chaque jour cette semaine, vient nous résumer ce qui se dit dans les médias à propos d'un sujet d'actu. Aujourd'hui, vous revenez évidemment sur l'interview d'Emmanuel Macron dans Ouest France, dans laquelle le chef d'État se dit frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres.
Oui, une sortie qui vise clairement à lancer la campagne des élections européennes, mais pas seulement, analyse l'éditorialiste de BFM Télé, Christophe Barbier.
Se représidentialiser, la hausse du gaz, la hausse de l'essence, tout ça c'est pour Édouard Philippe. Maintenant, le président de la République, il va se concentrer sur le sort de la planète, éviter la Troisième Guerre mondiale, éviter le retour des années 30. C'est ce message-là qu'il veut envoyer à travers cette interview.
Alors, est-ce une bonne stratégie? Voici la réponse de l'ancien ministre Luc Ferry sur le plateau de LCI.
Très mauvaise stratégie, et je pense que les macroniens sont en train d'anticiper une défaite cuisante.
Bon, ça c'est fait. Intéressons-nous maintenant au fond maintenant. Le chef de l'État a-t-il raison de comparer la situation actuelle en Europe à celle de l'entre-deux-guerres? En clair, Orban et Salvini sont-ils des fascistes? Ouvrez donc un livre d'histoire, semble dire au président Éric Zemmour sur RTL.
Effarement devant tant d'ignorance. Salvini n'est pas Mussolini, Orban n'est pas Hitler, parce qu'il faut y aller carrément là. On sait très bien ce qu'il veut viser. C'est faux.
Peut-être, mais pour autant, tout n'est pas à jeter. Dans ce que dit le président, répond à Éric Zemmour, l'éditorialiste Nicolas Domenac.
Il y a quand même des points sur lesquels on doit réfléchir, notamment la prolifération des marchands de peur comme Éric Zemmour. C'est un des manifestations de cet esprit-là, dans son suicide français, etc., dans sa considération de l'abaissement de notre nation, alors qu'elle est toujours debout, enfin voilà.
Mais oui, enfin, arrêtez donc de nous faire peur, de tout dramatiser. Tout ne va pas si mal, enfin, sauf si l'on écoute Jean Messia du Rassemblement National. C'était hier soir avec vous sur Europe 1.
Il y a effectivement une comparaison à faire avec les années 30. Nous avons aujourd'hui une lèpre non pas nationaliste, mais une lèpre islamiste, montante. On le voit dans certains quartiers, c'est la charia qui s'applique. Le véritable fascisme, il est là.
Ce sont des fantasmes.
Non, c'est pas des fantasmes. C'est une vérité.
19h, vous savez quoi, il est 19h38, ouais. Ça c'est imposé, c'est une pause.
Alors ça c'est une pub qui tombe à pic, Mathieu. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. Dans la joie et la bonne humeur et en musique.
Le tabac augmente, il faut trouver des milliards.
Je la connaissais pas celle-là de Michel Sardou.
Moi non plus.
Dans les années 30, le tabac augmente, le carburant on va voir, on en reparlera avec les grandes voix. Entre autres sujets, nous allons beaucoup parler de sécurité ce soir, il est 19h28 et je vous attends.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Ce soir, vous recevez Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir messieurs, dames. J'espère que vous allez bien, les grandes voix. Vous avez passé une bonne semaine. Tout va bien. Nous allons parler de sécurité et c'est une des préoccupations des Français. Ça, on le dit bien assez souvent. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses de dites autour de la soirée d'Halloween. C'est pas spécialement la soirée d'Halloween, la question de la sécurité. C'est cet enchaînement d'actualités, de formes de violence, parfois à l'école. Et la question que je vous pose, c'est une question politique. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a pris la mesure de la violence dans le pays? Qui veut prendre la parole en premier? Gérard?
Non, ma réponse est non.
Merci.
Je suis convaincu, et c'est dommage, et je dirais même que c'est même tragique, que le gouvernement n'a pas pris la mesure. Parce que vous dites Halloween, mais Halloween, c'est Halloween tous les jours pour les flics. C'est Halloween tous les jours dans les quartiers, ou quasiment tous les jours. Effectivement, on peut pas passer à la télévision, et d'ailleurs, on n'est pas à la télévision ou la radio, ne sont pas là pour ça, même les journaux. Mais si on passait effectivement tout les cas de violence urbaine, de guérilla urbaine, de guet-apens où on appelle les pompiers et les pompiers, dès qu'ils arrivent, se font caillasser par des bandes organisées, idem pour les voitures de police, etc. Alors on est passé, je le résumerai d'un mot, on est passé en 25 ans des sauvageons dont nous parlait le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement à de véritables sauvages. Mais c'est pas les sauvages, les bons sauvages.
En sauvagement qu'a utilisé un syndicat
absolument
policier.
C'est bien ça. On est passé à des gens qui ne se reconnaissent pas dans la société dans laquelle nous sommes, la société française avec ses habitudes, ses traditions, etc., qui sont en rupture avec cette société, qui sont en regroupement, ils se regroupent de manière ethnique, on ne le dit pas assez, mais il y a effectivement des phénomènes de bandes communautaires et ethniques avec des origines communes et on tombe sur les flics, tout ce qui, mais tout ce qui ressemble à l'État.
Est-ce qu'on ne fait pas un peu un discours alarmiste, si je puis me permettre, parce que par exemple,
Mathieu,
nous, on ne le vit pas forcément au quotidien. Certains le vivent au quotidien, ça c'est indéniable.
Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec Gérard sur un point simplement. Quand il dit non, le gouvernement n'a pas pris l'ampleur de la menace en quelque sorte. Bien sûr que si. Simplement, il est sur la défensive. Pourquoi si ? Parce que tous les matins à 7h, le ministre de l'Intérieur a sur son bureau ce qu'on appelle la synthèse de la nuit. Ce qui a donné la nausée, en fin de compte, au ministre de l'Intérieur précédent, et d'ailleurs il l'a exprimé dans son testament en quelque sorte, quand il a passé le pouvoir au Premier ministre, c'est-à-dire Gérard Collomb, et ce qui, pour l'instant, évidemment, attend, en tout cas pour trouver les solutions, le ministre Castaner. Mais le ministre Castaner, quand il lit cette synthèse de la nuit, comme il l'a fait à partir du 17 octobre au matin, bien évidemment, qui prend la mesure de la menace. Parce que c'est vrai que depuis 25 ans, ça ne fait que se répandre, qu'augmenter. Et surtout, ce qui est le plus impressionnant, c'est que il y a surtout un fait de violence qui caractérise, si vous voulez, cette menace, que je définis comme une menace. C'est de plus en plus ce qui met sur la défensive, d'ailleurs, le ministre, le secrétaire d'État à l'Intérieur ce matin sur Europe, M. Laurent Nunez, qui est un vrai spécialiste, justement, du renseignement de la criminalité, puisqu'il était le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et lui, il trouve de toute façon que ça va beaucoup mieux, en tout cas qu'ils ont trouvé les solutions. Mais parce que depuis qu'il est passé de rang de technicien à ministre, il est bien évident qu'il fait de la politique. Et ce matin, c'était un discours politique. Et il essayait de rassurer. Mais il est bien évident que lorsqu'il constate, si vous voulez, tous les vols avec violence et en réunion, et surtout les agressions de plus en plus nombreuses contre les policiers, contre les gendarmes et même contre les pompiers, avec des guet-apens, il ne faut pas oublier les guet-apens dont ils ont été victimes, notamment à Toulon où 12 délinquants masqués l'ont agressé, et surtout l'égorgement aussi d'un couple de policiers à Magnanville. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est en cela que je dis, bien sûr, qu'ils prennent la mesure. Maintenant, le problème, c'est de lutter.
Quand je dis qu'ils n'ont pas pris la mesure, Charles, je veux dire par là qu'ils ne disent pas, dans le langage officiel des hommes de gouvernement, les ministres, ils ne disent pas les choses que Collomb a fini par dire
en sortant
sur le perron. Quand Collomb, il réitère ce qu'il a dit en le précisant dans une longue interview de Valeurs Actuelles cette semaine, où il précise bien les choses. Quand il dit, Collomb, entre guillemets, les gens ne veulent pas vivre ensemble, dénonçant ces bandes, etc. Et quand il dit, c'est difficile.
Il dénonce les communautés.
Bien sûr. Mais quand il dit, il reste 5 ou 6 ans pour éviter le pire après, sous-entendu, la situation pourrait devenir irréversible. C'est ça que le langage. Si on veut montrer qu'on a pris la mesure,
c'est là
il faut dire
qu'on
n'a
pas pris la mesure.
C'est en ce sens-là que je dis qu'on n'a pas pris
Catherine
la mesure.
Catherine.
Oui, mais là, c'est comment faire ? Parce que c'est vrai, bon, la violence, il y a toujours eu dans les communautés, dans les villes, des violences urbaines, il y a toujours eu. Mais là, ce qui est nouveau, c'est quand même que vous voyez des enfants de 13 ans tués à coups de barre de fer par des copains. À 13 ans, on est un enfant quand même. Quand vous voyez un enfant à l'école qui menace sa professeure avec un faux pistolet peut-être, mais un pistolet en plastique parce qu'il veut qu'elle dise qu'il est présent alors qu'il était absent. Quand vous voyez, bon, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un mépris de l'autorité parce que ce sont des jeunes à qui on n'a pas appris vraiment à s'humaniser.
Catherine, ce que vous dites, c'est important parce que vous dites qu'il n'y a pas forcément plus de cas, mais ces cas-là sont plus graves.
Oui, parce qu'on n'avait pas vu ça. Quoi. Moi, j'avais pas vu que des enfants de 13 ans, qui se, des bandes dans Paris ou dans la banlieue, se tapent à coups de barre de fer avec aussi de l'acide pour se défigurer. Enfin, et comme les mêmes ingrédients qu'ils utilisent contre la police. Et ça, c'est quand même très nouveau. Et alors, moi, je crois aussi, ce qui m'a frappé, c'est l'histoire du garçon qui dimanche dernier envoie sur Snapchat lance pour Halloween la pure. purge, c'est-à-dire il se fie, enfin il se, il, son modèle, c'est une, on le sait, un film et une, du américain où qui où là pour faire baisser la criminalité, ben on égorge, on décapite, voilà,
c'est ça. Droits pendant un temps
tous
donné, voilà, c'est là que venait le mot purge, c'est de purge.
Et donc là c'est la purge, il leur dit, ben écoutez, venez, tous les coups sont permis contre les flics, habillez-vous en noir, masquez-vous et tous les coups seront permis. Bon alors paraît-il c'était une blague, il voulait pas faire ça, il s'attendait pas, mais quand même, voyez ce qu'aussi les films qu'ils peuvent voir, les jeunes qui n'ont pas de, quand même toute, beaucoup de maturité, voyez les désordres que ça peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça.
19h37. Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, vous avez bien raison, vous continuez à écouter le débat avec les grandes voix, à participer peut-être au 39-21 avec nous en studio, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, 19h37.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Ney, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve.
Et Charles, bah nous écoutions Catherine à l'instant. C'est vrai pour le coup que ces affrontements entre bandes, des bandes, il y en a toujours eu. Des gamins de 13 ans qui en viennent jusqu'à la mort, ça c'est un peu moins attendu.
Il y a deux phénomènes. Il y a,
ça n'arrivait pas avant. Voilà.
Ce que soulignait tout à l'heure Gérard, par rapport à ce que j'appelle le testament de Gérard Collomb, c'est-à-dire une cohabitation entre quartiers qui se délitent de plus en plus, si l'on en juge, si vous voulez, par la fréquence des agressions qui relèvent de la petite délinquance, des gamins de 15 à 16 ans, 13 ans peut-être, mais plus souvent 15 à 16 ans, c'est-à-dire des gamins. Or ces gamins sont les produits d'abord et avant tout, il faut quand même le rappeler, de leur éducation familiale, je devrais dire de l'absence de l'éducation familiale, parce que l'école ne peut pas tout, ni la police rétablir l'autorité là où elle a été, si vous voulez, abandonnée. C'est un phénomène qui apparaît de plus en plus dans les notes de synthèse, notamment les notes de synthèse du matin qui sont délivrées au ministre de l'Intérieur à 7h chaque matin. C'est ça qui est inquiétant, et c'est pour ça que Collomb disait, pour l'instant, côte à côte, mais plus pour longtemps, c'est ce qu'il sous-entendait, bientôt, face à face, parce qu'entre quartiers, et c'est vrai, dans certaines villes, ne serait-ce qu'à Créteil, il y a des quartiers qui sont pas loin de l'affrontement. Ça, il faut le souligner, c'est dans les rapports que vous pouvez
c'est
lire,
ce qui remonte des rapports
c'est
de,
ce qui remonte absolument.
De même bon. Que la déstructuration des familles, un commandant de police le raconte très bien dans Valeurs Actuelles, dans cet article dont je parlais, il dit effectivement dans les cités ou dans les endroits où il n'y a pas de père, voilà. Et il y a beaucoup de ces familles, où une pauvre femme, et je dis une pauvre femme parce que imaginez une femme qui travaille, et souvent un travail ingrat, parfois de nuit, parfois de femme de ménage ou autre, qui se trouve avec deux ou trois adolescents qui ont entre 12 et 15 ans. Il n'y a pas de père à la maison. Il n'y a plus de loi. Dans une famille à laquelle on était habitué, jusqu'à encore il y a une dizaine, une quinzaine d'années, il y avait une sorte de loi. Il y avait des choses qui ne se faisaient pas, des choses qu'on ne faisait pas. Et il y avait le père qui était là pour donner éventuellement une taloche, ou en tout cas pour tenir un discours qui permettait aux enfants de comprendre que tout n'était pas permis et qu'il y avait des tabous. Là, dans ces coins-là, il n'y a plus de tabous. Alors comment on fait ? Comment on fait avec ces enfants ? C'est le problème. On en parlait beaucoup des violences à l'école. Mais ces violences à l'école se recoupent, effectivement, avec les violences dont on parle. Ce sont, en gros, les mêmes enfants.
Parce que le délabrement des cités, le délabrement, notamment moral, autoritaire, des cités, se déporte vers les collèges et vers les lycées, avec la délinquance qui va de pair. Et c'est ça, si vous voulez, ce à quoi ce phénomène nouveau auquel vous êtes en train d'assister, qui pose un véritable problème aux forces de sécurité. Et ça n'est pas résolvable du jour au lendemain, d'autant plus qu'il faut le souligner, dans les prisons françaises, il y a quelque chose, si vous voulez, qui ne va plus du tout par rapport à l'environnement européen, scandinave ou anglo-saxon. C'est que le taux de récidive en France des délinquants, quels qu'ils soient, primo-délinquants ou autres, est de 60%. Le taux de récidive dans les autres pays européens, notamment du Nord, est de 20%. En Allemagne, il est de 25%. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait l'effort. On n'a jamais fait l'effort sur les forces, sur les équipes de réinsertion. On ne travaille pas là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez se déporter sur les juges est injuste aussi. Et le politique aussi est, critique ouvertement et parfois à tort. Parce que les juges appliquent la loi. Et qui fait la politique ? Qui fait la loi ? C'est le politique.
Sur les enfants, il y a beaucoup à dire. Parce que sur les enfants,
l'ordonnance de 45,
elle le quand un juge a en face de lui un garçon qui a 13 ans, qui fait 1m75 et qui est déjà qui est livré à la rue depuis déjà des années, qui a fait 25 agressions, lui appliquer la justice pour enfants, c'est comme ça qu'on l'appelait dans l'ordonnance de 45, ça veut dire qu'on se trompe d'époque. Ça ne correspond plus à l'époque.
Catherine.
Oui, mais d'ailleurs, quand on pense, on sait aujourd'hui que pour éduquer à la responsabilité un enfant, il faut que dans la famille, il y ait deux pôles d'autorité, le père et la mère. C'est ce qui est le mieux. C'est, toutes les psychiatres le disent. Ils disent une mère toute seule, Gérard l'a dit tout à l'heure, c'est très très difficile. Or, on voit aujourd'hui
il y a beaucoup
que.
De familles monoparentales.
Il y a beaucoup de. Bon, il y a des familles monoparentales, c'est souvent, on ne s'est pas choisi, c'est subi.
Bien sûr.
Mais, mais d'un autre côté, on remarque aussi qu'il y a une sorte d'enthousiasme à tendre. Tenter de convaincre dans les médias ou même à l'école des bienfaits du matriarcat, c'est-à-dire que voilà, de la femme seule qui peut très bien élever un enfant tout seul. Ça se dit aussi, ça, faut faire attention. Donc l'idée que du père, l'absence du père, c'est quelque chose qui est presque accepté dans notre société. C'est contraint ou forcé, mais c'est comme ça. Mais en tous les cas, on est presque regardé comme quelqu'un d'un monde ancien quand on ose dire que c'est vrai qu'un enfant qui manque de père se développe moins bien qu'un enfant qui est élevé seul par une mère.
Mais je voudrais, à propos tout à l'heure, Catherine, tu as parlé de ce jeune homme, de ce garçon de 19 ans, qui a donc lancé ce hashtag la purge. Bon. Le juge n'a pas voulu prendre le risque de le mettre en détention provisoire. Et moi, je le comprends personnellement, j'ai lu des critiques à ce propos. Parce que d'abord, c'est un bon élève, il a d'excellents bulletins scolaires, il n'a aucun antécédent judiciaire. Et le maître, automatiquement, en détention provisoire, c'est le maître de prendre le risque d'en faire un véritable délinquant.
Ça, c'est sûr,
c'est pour ça que j'ai fait allusion, si vous voulez,
au taux de récidive. Il y en a qui pourraient être enfermés et d'autres qui ont 19 ans et qu'il ne faut pas...
Oui, ça, on revenait à ce qu'a évoqué Gérard, l'ordonnance de 45.
Bien sûr. Mais lui, 19 ans, vous dites, voilà, une erreur et peut-être une possibilité de le recadrer sans forcément passer par la détention.
Catherine. Non, mais il peut y avoir aussi des maisons sans être des maisons de détention. C'est un peu des collèges où on s'occupe d'eux. On avait essayé. Il y a eu plusieurs tentatives comme ça d'endroits où les jeunes viendraient, où on leur ferait faire du sport, où ils seraient encadrés et qui réussissaient. Mais ça coûte très cher et ça a été abandonné. Il y a 25 ans, dans le gouvernement Chirac, on avait essayé, on avait lancé.
Il y a quand même
des...
un problème d'argent global.
Ah, mais il y a un problème
de moyens.
D'argent.
Non, mais on est d'accord sur la sécurité.
On est assimilé à cette époque,
sur les forces de police,
Chirac aux maisons de correction.
Voilà.
C'est la raison pour laquelle on y a renoncé aussi. Il y avait un problème budgétaire, mais il y avait aussi un problème, si vous voulez, de conception.
Oui, mais ce que je veux dire sur l'argent, c'est qu'on ne met pas les moyens. On le voit bien dans la police qu'on manque d'effectifs. On voit bien que les juges aujourd'hui ont des piles de dossiers et qu'ils sont obligés de débiter. La réponse, elle est politique.
Elle est politique,
oui,
et où trouver l'argent.
Oui,
tout à fait.
Oui, absolument.
On ne s'en sortira pas sans des... Alors effectivement, chaque fois qu'il y a des plans ambitieux, très ambitieux, ils sont extrêmement coûteux. Il y avait eu d'ailleurs dans le plan Borloo, il y avait des choses. D'ailleurs, on l'a renvoyé gentiment.
Il a calé une étagère.
À l'envoyeur. Mais il y a des choses à faire. Effectivement, elles sont extrêmement coûteuses. Mais il faut savoir. Et là, je reviens à Colomb. Colomb n'est pas un prophète, certes, mais Colomb a quand même observé ça de la tour du ministère, enfin, de son ministère de l'Intérieur, de sa tour d'horizon. Il a pu dire des choses comme on va vers une forme de. Il a utilisé les mots. Moi, ça me fait peur, ces mots-là. Les mots de partition et de sécession. C'est des mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'apartheid à la sud-africaine, c'est-à-dire des quartiers.
C'est-à-dire l'assurance de l'affrontement.
C'est ce que disait Manuel Valls, l'apartheid territorial, social.
Et si on veut ça, alors on dit laissons filer, pas de vague, ne mettons pas d'argent en plus, c'est pas la peine.
Je dis courage fuyant, il a quitté le ministère de l'Intérieur.
On aura des quartiers complètement séparés.
19h46. Europe 1. Le temps passe et nous avons un autre débat et qui anime beaucoup de conversations chez vous. Je le sais. Est-ce que vous en serez le 17 novembre? Est-ce que vous allez manifester, bloquer les routes contre la hausse des prix des carburants? 19h47, on revient tout de suite.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreau.
Gérard, vous faites quoi le 17?
En tout cas, je veux dire, moi, avec Charles, d'ailleurs, on a fait ça depuis 40 ans. Chaque fois qu'il y a des manifs importantes, des mouvements importants dans le pays, on va voir. On a toujours fait ça, on a toujours été... Parce qu'on ne se contente pas de la dépêche AFP, on va voir sur place.
Donc la nuit de la rupture entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste, on était au Parti Communiste.
On était sous la table.
Absolument.
Non, je veux dire par là que je serai dans la rue parce que je veux voir. Je veux voir. Alors, je le verrai qu'à Paris. Je pense que c'est un mouvement qui va être extrêmement... Moi, je pense que c'est... Je ferai un pronostic. Je pense que ça sera un mouvement extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il y a la rencontre entre deux choses qu'on sent monter. Le mécontentement qui est parti du prix de l'essence, du prix des carburants, mais qui monte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la diminution des retraites pour ceux qui touchaient une petite retraite, etc. Il y a un ensemble de mécontentements. Il y a une kyrielle de mécontentements.
Il y a un dépit général.
Et pour une fois, ce ne sont pas les partis politiques très déconsidérés, les syndicats très déconsidérés, qui ont lancé une idée et un mouvement. C'est parti d'une base, d'une fille qui est tout d'un coup en a eu marre, et qui c'est donc parti des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je crois qu'on en est, Catherine me disait, 600 000, je crois.
700 000.
Je pense qu'on va dépasser là, on va dépasser le million très vite. Il va y avoir un mouvement, parce que justement, parce qu'il n'y a pas l'encadrement politique, ça sera un mouvement du peuple. C'est un mouvement du peuple.
Mais Mathieu, pour une raison simple, moi je suis tout à fait d'accord avec toi Gérard, nos sociétés occidentales sont aujourd'hui aussi sensibles au prix du carburant que l'étaient celles de l'ancien régime au prix du blé. C'est pour ça que ça peut aller très vite. Et quand vous écoutez par exemple Jérôme Fourquet, qui est le directeur du département opinion de l'IFOP, lui considère que c'est un mouvement d'ampleur national qui peut être très important. Et c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça s'inscrit dans un dépit général. Et parce qu'il n'y a pas que le prix du carburant qui a pris quand même, il ne faut pas l'oublier, depuis le début de l'année, 23% de plus. 23% d'augmentation.
Pour le gazole et 15% pour l'essence en l'occurrence. Ouais. Et c'est vrai, vous avez raison de préciser, il y a cette augmentation-là, il y en a d'autres. C'est cristallise. Quoi.
Oui, mais ce qui est nouveau, ce n'est pas la première fois qu'il y a des hausses d'essence. Il y en a eu depuis des années, je me souviens. Bon. Alors, ce qui est nouveau, en effet, c'est que dans les années 80, dès qu'il y avait une hausse de carburant, qui montait au créneau, c'était les syndicats. La CGT, FO et la CFDT. Là, c'est la première fois que les syndicats, d'abord, ils ne sont plus du tout dans une logique consumériste, on défend le consommateur, ça, c'est pas. Maintenant, c'est le droit du travail. Et puis, maintenant, la CFDT, elle est pour, parce qu'elle est dans une logique de très écologiste, faire baisser la consommation d'essence. Donc, ce sont les citoyens eux-mêmes qui lancent leur débat. Mais ce qui est nouveau, par exemple, en 2012, il y a eu un pic de la hausse du prix du pétrole, et c'est vrai que le prix de l'essence avait monté, il y a eu une semaine où même le litre était à 2 euros. Vous voyez, ça n'avait jamais été aussi haut. Mais c'est la première fois, mais en revanche, le gazole était beaucoup plus bas. Mais c'est la première fois que le gazole, le diesel, monte autant et bientôt sera même plus cher que l'essence.
Oui, c'est éminent.
Qui se roule avec des diesels? Eh bien, il faut voir en province. Eh bien, c'est les retraités qui ont des petites bagnoles, qui ne veulent pas en changer et qui en ont marre parce qu'il y a eu aussi, quand ils ont acheté leur voiture, c'était que le gouvernement disait acheter du diesel. Ça coûtera moins cher.
Il y a aussi l'affaire du CG pour les retraités.
Donc, les grands dépités.
Qui sont les sacrifiés.
Les grands dépités de
nouveau gouvernement, c'est ce qu'ils considèrent.
C'est les retraités qui ont du diesel et qui ont une baisse de leur retraite. Voilà. Tandis que, alors, le gouvernement...
Mais c'est vrai que c'est pas les carburants, on en parle, et pour avoir évoqué beaucoup le sujet, on va beaucoup en parler, évidemment, jusqu'au 17 novembre. J'étais avec Rémi Jossomme, qui est avocat spécialiste dans le droit de la route. Il me disait, pour un automobiliste moyen qui fait 15 000 km par an, c'est 9 euros par mois. Mais c'est plus que l'argent qui est dépensé, c'est qu'il y a un symbole très très fort d'atteinte au pouvoir d'achat.
Bien sûr.
On est allé trop loin.
Bien sûr.
Et c'est des gens qui ne sont pas habitués. Les gens en ont marre des manifestations organisées par les institutionnels, syndicats ou partis politiques. Ils y vont de moins en moins. Mais là, ils ont l'impression que c'est une manifestation du peuple pour le peuple. Et c'est ça qui est formidable dans ce mouvement, et c'est ce qui probablement va faire le succès de ce mouvement. Il y a eu un précédent, le seul précédent qui me vient à l'esprit dans les 10 dernières années, c'était les bonnets rouges dans toute la région Bretagne. Sous le quinquennat de François Hollande.
Pour les portiques des poids lourds.
Mais c'était moins spontané.
C'est vrai que les bonnets rouges s'inscrivent, c'est une étape intermédiaire
de ce phénomène-là.
C'est les bonnets rouges de Macron.
Ça
peut l'être.
Non, mais là, la pétition a été lancée par une jeune femme qui s'appelle Priscilla Ludowski, qui habite Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, qui a fait une petite chose sur changement.org, qui, avec son ordinateur, et qui, aujourd'hui, elle a 600 000 followers.
C'est la passionnariat.
Non, mais c'est... Moi, ce qui montre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une arme incroyable. Alors, soit d'hystérisation collective pour...
C'est un amplificateur,
pour
les réseaux sociaux.
Pour la violence, soit un amplificateur du mécontentement.
Alors, je voudrais vous poser une question quand même assez simple.
Oui.
On a une urgence... La réponse est compliquée. La question est basique. On a quand même une urgence climatique. On a une mesure qui est prise.
Oui, ça c'est parfait. Alors là, Mathieu, tu es parfait.
Elle est simple, la question.
Tu devrais être engagé à Matignon auprès d'Edouard Philippe. C'est exactement l'argument d'Edouard Philippe.
J'ai regardé une étude. Il n'y a aucun des pays...
Et nos enfants, quand ils vont nous demander
Charles
justement le climat...
Charles, il y a une étude qui est sortie hier, qui est parue hier, qui nous apprend que
ces
beaux accords de Paris, de la COP21, il n'y a pas un pays qui les respecte.
Mais il n'y avait pas de mesures contraignantes. On s'est gargarisé avec la COP21. Il n'y avait pas dans la...
Et voilà une mesure contraignante, augmenter le gazole pour faire baisser la consommation.
Les gens savent très bien que les taxes actuellement qui représentent ce qu'on... C'est pas le prix du baril. Le prix du baril, on n'y peut rien. Hein, le baril, il est produit dans...
Il a grimpé d'un tiers depuis un an.
L'augmentation, effectivement, c'est pas l'augmentation du baril qui fait gueuler les gens. C'est l'augmentation des taxes. Et ils savent très bien que les taxes, elles ne vont pas... Il y a une petite partie qui y va, mais une toute petite partie, le reste ne va au budget pour colmater les trous du budget et ne va pas pour le réchauffement climatique, pour combattre le réchauffement
climatique. Le gouvernement
n'a
pas de chance parce qu'il a quand même baissé la réduction d'un tiers de la taxe d'habitation pour 8 Français sur 10. Oui. Bon. Et pour les salariés, comme on l'a,
il n'y
a plus de cotisation chômage, ils ont plutôt 30, 20, 40 euros de plus par mois. Eh bien, ça, ils ne le voient pas parce que c'est mangé par Céléo.
Mais bien sûr. Et dans ton étude que tu as lue sans doute, est-ce que, rappelle-toi, est-ce que Mathieu Béliard...
Là, ça va être la question difficile.
Non. C'est pas fini les taxes. C'est pas fini. Elles vont augmenter dans 2 mois.
Ah oui, encore.
De 6%, oui.
Et cela dit, on continue. Oui. Cela dit, là où je vais dans votre sens, c'est que ce qu'on constate, c'est que ça change rien, puisque les gaz à effet de serre, les émissions de la France continuent à augmenter, même avec l'augmentation des carburants.
Prix du litre gasoil, plus 6 centimes. Prix du litre d'essence, plus 3 centimes. Dans 2 mois, là, au mois de janvier.
1er janvier,
pour les fêtes.
Ça va continuer. Ça va continuer.
Oui.
Du Monde le 17 novembre.
Non, mais c'est vrai.
Là, c'est difficile de faire les Madame Irma, mais du Monde le 17 novembre.
Il y a une apparente contradiction qui est de dire comment les gens peuvent-ils être dans leur grande majorité favorables à la préservation de la planète. On est tous favorables à la préservation de la planète.
Contre.
Et en même temps, pourquoi sont-ils contre le fait qu'on leur pique leur pognon pour effectivement la planète? Mais c'est parce qu'ils ne sentent pas, ils ne voient pas le rapport direct entre l'argent qu'on leur pompe, si j'ose dire, à la pompe, à essence, et l'argent qui va effectivement... Donc c'est pour ça, et c'est de cette contradiction qu'est né le mouvement du 17 novembre.
Et on suivra, de toute façon, on suit de très près, et la colère, elle est réelle. Moi, je l'ai entendu beaucoup au 39-21. On peut pas balayer ces gens d'un revers de main au prétexte qu'il y a de grandes causes à défendre. Il faut aussi aller au boulot, aussi nourrir sa famille, et c'est pas évident d'acheter... Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter la voiture électrique qui a une autonomie de 200.
2000 euros contre 20 000 euros pour le prix de la bagnole.
Mais là aussi, l'État n'est pas innocent dans cette affaire. Une aide de 6 000 euros. On achète une petite Zoé. Elle est au moins à 24 000, 25 000, 28 000 euros. Et puis, vous pouvez vous garer sur l'emplacement, justement, des voitures sans payer la taxe. Et oui. Et puis, à la place des voitures électriques qui ont déserté Paris, vous pouvez prendre le tuyau électrique pour faire le plein. Vous avez le droit de vous faire installer dans votre garage
terminé,
une prise électrique.
C'est terminé. La liste est longue. 19h57. Je voulais pas vous couper la parole. Merci à vous trois. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Émilie Mazoyer, je vous prie d'excuser notre léger retard, mais il était question de carburant.
Je vous aime trop. Et donc, c'était très intéressant de vous entendre là-dessus. Merci à tous.
Bon, qu'est-ce qu'on écoute ce soir?
Plein de nouveautés, c'est vendredi, bande essai des nouveautés. Je vous présente mon coup de cœur, il s'appelle Jacob Banks. Il vient du milieu du hip-hop et des sound systems londoniens. Et ça fait partie des titres tout nouveaux sortis aujourd'hui que nous allons écouter ce soir dans l'émission.
On écoute ensemble ce soir jusqu'à 22h en musique avec Émilie Mazoyer. À lundi, Ombline.
Oui, à lundi. Merci Mathieu Béliard. À suivre l'information de Sophie Tussaud.